bonsoir. Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bonne FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et dans cette première partie d'émission, nous avons le plaisir et la joie d'accueillir Sandrine Colette. Sandrine Colette, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Nous allons parler ensemble de votre dernier livre paru. Je déteste dire ce dernier livre, on dirait que ça va être qu'il va plus y en avoir après. Donc c'est le dernier livre publié qui vient de sortir. C'est votre quatrième roman. Il s'appelle Il reste la poussière. C'est les quatre livres. Donc le premier date de 2009. Hein, c'était il n'y a pas si longtemps. Des nœuds d'acier. Les quatre. Paru chez De Noël. Et juste avant de parler d'Il reste la poussière, hein, les trois premiers sont réédités en livre de poche. Le troisième là, vient de reparaître en livre de poche. Hein. Il est déjà.
Oui, c'est ça. Au moment de la publication de Il reste la poussière, le poche a suivi.
Donc, dans ce dernier roman, vous nous emmenez dans un lieu qui pourrait paraître magique, le nom flambe dans l'oreille de beaucoup de personnes, vous nous emmenez en Patagonie.
Oui.
Et avant de plonger dans l'histoire proprement dite, j'aimerais bien un petit peu savoir le début de ce roman. Est-ce que c'est un voyage ou au contraire, l'idée de roman germa avant le voyage ou pas de voyage du tout?
L'idée du roman germait en premier, complètement. Et en fait, j'ai cherché plus tard un décor qui pourrait illustrer complètement cette histoire-là. Et j'ai hésité entre plusieurs décors, d'ailleurs. Donc la Patagonie, c'est un second temps.
On va voir en discutant que ça correspond totalement, enfin, que ça amène énormément de choses à l'histoire, puisque ça fait partie, le décor est un personnage en lui-même. Et puis, on a dit où, et puis il y a aussi quand, parce que, alors, vous le dites à peine, on le sait par une demi-phrase. Même si après, dans l'histoire, on peut se renseigner sur effectivement le passage du mouton à l'élevage de bœufs. Mais l'histoire, en fait, elle date de plus d'un siècle. Et pourtant, on pourrait totalement penser que c'est complètement maintenant. C'est totalement voulu, bien évidemment.
Oui. Au tout début, j'avais daté le livre, j'avais daté le prologue notamment. Et puis, à la relecture, je me suis dit que l'histoire était parfaitement intemporelle. Et là, c'est tout à fait vrai, quoi. Cette impression, ça pourrait se passer aujourd'hui. Et ça pouvait se passer il y a 100 ans. Alors, les quelques indices sont historiques. Et exactement, c'est l'évolution du frigorifique. Le moment où on a réussi à congeler des viandes pour pouvoir les exporter. Voilà, il y a 2-3 indices qui permettent de situer. Mais en fait, voilà, c'était pour garder une universalité à l'histoire. Je pense qu'on pouvait la situer un peu tout le temps.
Et l'universalité, c'est long ce mot à dire, l'universalité, en fait, c'est le noyau familial, la famille. Donc, oui. On n'a pas parlé beaucoup, mais on a évoqué la Patagonie. C'est une nature très, très hostile. Et dans ce lieu, inhumain presque, survit une famille. Alors, la famille, on va la découvrir par Raphaël. C'est le tout petit. Il y a une fratrie de 4, il y a des jumeaux, il y en a un troisième qui n'est pas tout à fait, on dit en Provence, on dit il n'est pas tout à fait fini. On le dit dans beaucoup d'endroits. Voilà. Et ils font tourner une ferme avec la mère. Et le début, on se rend compte tout de suite que pour Raphaël, c'est l'enfer, parce qu'il est le souffre-douleur de ses frères. Et le pire, c'est que la mère s'en fiche. Complètement. Et là aussi, on part tout de suite dans les métaphores parce que finalement, on est en pleine campagne, on est en pleine nature, ils sont à des kilomètres de la ville, bien que la mère aille à la ville. Mais finalement, Raphaël, ce petit, c'est comme le petit d'un animal, s'il est trop faible, il est éliminé.
Oui, en fait, on a presque le choix, je crois, dans une fratrie, le petit dernier, soit c'est le chouchou. Soit c'est le souffre-douleur. Bon, là, j'ai pris la seconde option.
Ça fait un roman plus noir.
Voilà.
Ça fait un roman très noir, même.
Oui, pour l'exercice, pour le genre, c'était bien. Et puis, c'est aussi notre approche de relations familiales. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elles sont souvent difficiles. Et là, voilà, l'idée, c'était de... j'ai réfléchi un bon moment avant de me dire quels vont être les enfants. Il y a 4 fils. Est-ce qu'il aurait fallu une sœur? Est-ce qu'il n'en fallait pas? Enfin voilà. Il y a 4 fils et ce petit dernier qui est arrivé plus tard. C'est-à-dire il est nettement plus jeune que les autres qui se suivent. On n'en voulait pas, c'était déjà une bouche de trop à nourrir, c'est de la tension, c'est de la fatigue, et c'est pour ça aussi que tout le monde se venge un peu sur lui.
Ceci dit, enfin, on va voir que malgré tout, ils ont bien des excuses, parce que survivre dans cet endroit, à élever à 5, donc les 4 enfants, dont des enfants, et la mère, puisque le père a disparu. On ne dira pas comment, le père a disparu, oui. On va le découvrir au fur et à mesure du roman. Et survivre, on ne sait pas trop si la violence qui se déchaîne dans cette famille, c'est la faute, je dirais, intrinsèquement à la famille, aux êtres humains, ou à la nature.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans, c'est que l'hostilité de la nature est première, historiquement, bien avant cette famille-là. Et il y a quelque chose qui se met en place lentement, qui est qu'on se rend compte que la nature contamine la famille. Et que cette violence, effectivement, la misère fait qu'elle est aussi intrinsèquement liée aux humains qui la composent, mais elle est forcément aggravée par cet environnement qui ne donne rien.
Et on pourrait presque penser qu'on a génétiquement, la mère en tout cas, dont on va reparler, la mère, elle est tellement marquée que son comportement, de toute façon, c'est darwinien, quoi. Son comportement, il ne peut être que ça, finalement. Marqué tellement par des générations. Enfin, je vois ça, j'imagine un petit peu.
Oui. Effectivement, c'est que la suite logique d'un moule que pour l'instant rien n'a fissuré, et la seule fissure qu'il y aura, c'est celle qui apparaît dans le livre. Et voilà, c'est vraiment le destin, le hasard, quelque chose de tragique de plus. Et la mère, qui est peut-être avec la nature le personnage le plus dur du roman, c'est pour ça aussi qu'elle n'a pas de prénom.
Oui, c'est la mère. Et
voilà, une façon de la garder à distance. Une façon de bien montrer que la mère, tellement cette dureté en elle qu'on ne peut pas l'appeler.
Et dans l'ensemble des relations, on va un petit peu avancer après dans l'histoire, mais dans l'ensemble des relations entre ces êtres humains, les frères, y compris le plus fort, pas l'aîné puisqu'ils sont deux jumeaux, mais Mauro, le plus fort, celui qui abat tout, celui qui est le plus violent, celui qui soi-disant impose sa loi, il y a un sentiment que vous arrivez très très bien à décrire tout le long, c'est la résignation. Et je vais juste citer une phrase. Toute sa vie, en parlant de Raphaël, toute sa vie baigne dans ce mélange de résignation et de poings levés au ciel. S'étrangle de peur de voir les éléments déchaînés, de rage face au monde qui n'est ni juste ni beau. Il y a constamment cette résignation.
Oui, mais ça c'est vraiment l'ordre de la nature. C'est l'anthropomorphisme à l'envers finalement. C'est-à-dire qu'on voit bien comment se comportent les bêtes. Donc à l'état naturel et en même temps social, parce qu'elle crée des hiérarchies entre elles forcément. À partir du moment où il y a des dominations qui sont établies, mais plus personne ne les conteste. Les seuls qui vont contester, ce sont les jeunes qui naissent, qui grandissent et qui, à 2, 3, 4 ans, selon les races, vont venir contester l'autorité d'un dominant, d'un chef. Et là, c'est vraiment la même chose. C'est la hiérarchie s'est établie en fonction, en fait, pas d'un charisme quelconque, mais plutôt d'une force qui fait qu'on parle plutôt avec les mains, hein, dans cette famille-là.
Oui, avec les muscles.
Aussi. Voilà, c'est ça, et plutôt pour faire mal. Voilà. Et derrière, le moyen de vivre le mieux possible ou le moins mal possible, c'est de ne pas contester. De se couler là-dedans. Mmh. Voilà.
Et les 4 frères, alors vous décrivez des histoires terribles, la mère, et il y a ce personnage de mère qui, en fait, Raphaël, c'est le héros, il va lui arriver une aventure extraordinaire, il va en revenir, il va se passer des tas de choses, mais donc on pense naturellement que Raphaël, au fil du récit, est le personnage principal. Et ben moi je détourne plutôt vers la mère, cette mère qui n'a pas de nom et qui est indigne, faut bien le dire, puisque ses fils sont quand même les esclaves. Elle a fait des choses quand même très répréhensibles. Elle continue, elle va quand même dépenser une partie de ce qu'il gagne en se peintant et en jouant. Elle va même jouer jusqu'à son fils. Mais c'est quand même bien plus complexe que ça. Elle n'a pas le choix.
Oui, elle n'a pas le choix. De notre regard à nous, qu'il ne faut surtout pas prendre, il y aurait forcément des solutions. Mais effectivement, pour elle, il n'y a pas d'autre choix. Elle est dans une espèce d'ordre immuable. Et peut-être le plus insupportable pour elle, c'est que malgré tout, il y a des choses qui bougent. Et les choses qui bougent, c'est à cette époque-là. D'ailleurs, sont les petits éleveurs qui vont être grignotés petit à petit par les gros, par les riches de la Pampa. Il y a plein de choses qui se jouent en même temps et elle est butée justement dans cette absence d'évolution, dans le fait qu'il ne faut pas que les choses bougent. Et elle est très centrale de ce point de vue-là, puisqu'elle va ramener sans arrêt les fils dans ce carcan-là. Et puis finalement, mais là où c'est ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que il y a un héros qui est peut-être le seul héros un peu solaire, qui est Raphaël, mais en même temps, les quatre autres sont aussi des héros.
Ah oui.
Tour à tour.
Et le mot héros, souvent dans le roman noir, on hésite à employer le mot héros. Parce qu'on parle plutôt de personnage principal, parce qu'il y a beaucoup de figures de mal, de noir et de noirceur, justement. Mais là, ce qu'ils vivent au jour le jour, ce qu'ils arrivent à abattre et à finalement survivre, oui, c'est là de vrais héros.
Oui, des héros sous forme de anti-héros, enfin je ne sais pas, c'est difficile de dire, en tout cas des caractères.
Et des caractères qui fait qu'un jeune homme, Raphaël, parce qu'il a laissé s'enfuir un cheval, il prend deux petits morceaux de viande séchée et puis certainement un petit peu de pain, un petit peu d'eau, et il part dans cette nature complètement hostile. Il traverse des forêts, il traverse des landes, il traverse... Et il va partir plusieurs jours. Il va... Alors, on n'a pas d'enquête, mais on a une quête. Raphaël part, et là, on est dans un voyage initiatique.
Absolument, complètement. D'abord parce que c'est aussi la première fois qu'il va quitter l'estancia, donc l'aspect aride de la Patagonie. Et donc le livre dit qu'il part vers l'ouest, parce que la piste des chevaux échappés part vers l'ouest. Et l'ouest, c'est la fin de la steppe, les plateaux, et puis plus loin, les contreforts de la cordillère des Andes. Donc là où la nature change complètement, où il y a enfin des arbres, enfin de la verdure, même si c'est pas clément. Mais voilà, cette quête, c'est à la fois la quête des chevaux perdus, et ça va être beaucoup plus large, parce que c'est la découverte d'un nouveau monde. Et un nouveau monde, je m'entends, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dedans qu'on va découvrir au fur et à mesure.
Et donc, au cours de ce voyage initiatique, il part avec son meilleur ami, le cheval Allais. On essaiera d'y revenir si on a un petit peu le temps. Ce magnifique cheval, son meilleur ami. Et il va atterrir dans une grotte où il y a un homme qui agonise. Et sous la tête de cet homme qui agonise, il y a en quelque sorte la boîte de Pandore. Où serait peut-être enfermé ce qu'il appelle le bonheur. Peut-il y avoir le bonheur dans ce pays ?
Oui, ça le déroute beaucoup, parce qu'effectivement, cet homme qui agonise lui dit lui-même que ce qu'il a contre lui dans un sac, c'est le bonheur. Et à ce moment-là, Raphaël ne comprend pas, en fait. Parce que le bonheur, il ne sait pas ce que c'est. Il ne connaît pas le mot. Et peut-être d'une façon assez allégorique, mais le livre entier sonde un peu cette question-là. C'est vraiment cette question, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Et ça va tourner autour tout du long, et ça commence de cette façon-là, quand il découvre ce vieux blessé, et qu'il se dit, mais le bonheur, c'est quelque chose qui tient dans un sac. Et ben voilà, il se demande, est-ce que c'est vivant ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça mord ? Qu'est-ce que ça fait ? Et lui, le seul mot qui ait des sonorités proches et qu'ils connaissent, parce que c'est dans la bouche de la mère tout le temps, c'est malheur. Donc voilà, à ce moment-là, à savoir si c'est la boîte de Pandore ou si c'est le bonheur qu'il y a là-dedans.
Alors, alors le bonheur, c'est peut-être aussi, tout à fait métaphoriquement d'ailleurs, de s'occuper de l'autre, parce que finalement Raphaël a toujours été très malheureux parce que les autres ne s'occupaient pas de lui, mais lui il avait personne de qui s'occuper. Et finalement de se retrouver dans cette caverne, c'est terrible, il doit faire noir, il fait humide, il a un homme qui est mourant, mais il va s'occuper de lui, et quelque part ça va énormément l'apaiser, Raphaël.
Oui, c'est quelque chose en fait qu'il a déjà connu, mais uniquement avec des bêtes. Et c'est-à-dire, voilà, c'est les quelques vaches de la mer, ce sont les milliers de moutons qu'il y a dans l'estancia. Et
trois
d'ailleurs,
chiens.
Il retrouve des choses très proches avec cet homme blessé, puisque lui, les comparaisons qu'il va faire sur la blessure, sur le comportement, c'est en disant, oui, voilà, une vache blessée, elle ferait comme ça, un mouton bon, agonisant serait comme ça. Et effectivement, jusque-là, la seule chose dont il se soit occupé, ce sont des animaux. Donc, il découvre une forme d'humanité.
Mais cette humanité, il l'avait déjà trouvée dans les animaux. Alors, il y a les chiens, il y a un, deux, trois. Il y a un de ceux-là qui est son meilleur ami. Et puis, il y a son cheval, Allez. Alors, je vais lire une toute petite, assez rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Oui.
Un tout petit passage où Allez et Raphaël ne semblent faire plus qu'un. Mais jamais le cheval ne trébuche ni ne glisse. Un monstre né dans ses steppes, dans la traîtrise des roches. Et lui, le petit, ne connaît pas la peur sur son dos, pas une hésitation, pas un faux pas. L'alezan s'envole, dévore la plaine. Les yeux plissés à cause de la poussière, Raphaël lâche les rênes, ouvre les bras. Personne ne les voit. Ni le cheval, en colure basse et lancé dans un galop insensé. Ni le petit, main tendue au ciel tel un fou rieur, sans quoi il y aurait des cris et des prières, qu'il n'entendrait pas, des hurlements pour les ramener. Mais il les ignore, sourds et aveugles. Happé par une joie immense qui les jette en avant et leur enlève et la raison et la pesanteur du monde. C'est la première fois que les chevaux ont autant d'importance, alors qu'on sait que vous aimez beaucoup les chevaux, il y en a dans chacun de vos livres, mais là, ils deviennent des personnages à part entière.
Oui, je pense que ça a été long parce que je sais qu'il y a un risque quand on parle de, qu'on met en scène sa passion, c'est de tomber dans quelque chose d'un peu mélo, un peu tarte, parce qu'on est simplement dans l'amour des chevaux. L'idée, c'était pas de faire quelque chose qui soit juste, qui soit tout bêtement mignon. Voilà, et donc c'était le temps d'arriver à mettre en place un livre qui mette en scène des chevaux de belle façon. Voilà, quelque chose qui soit puissant, quelque chose qui soit émotionnel aussi, et qui soit pas juste un prétexte pour mettre des chevaux, parce que voilà, comme vous dites, j'aime les chevaux.
Mais effectivement, de toute façon, c'est pas un prétexte, parce que c'est le moyen de transport, c'est le moyen de rassembler les moutons. Donc, en fait, on soigne là-bas plus les chevaux que les êtres humains. Finalement, ils ont plus d'importance. Mais aller, c'est quand même... voilà, et là, on arrive quand même beaucoup dans les mythes. Il y en a énormément, je trouve. Voilà, l'homme de la caverne. Il y a ce cheval qui s'appelle Allez, H-A-2-L-E-Y, qui est une sorte de cheval ailé. Il s'envole. Il s'envole souvent avec Raphaël.
Oui.
Et puis il y a le fils prodigue. Donc il y a toujours en filigrane, en fait, toute l'essence des êtres humains. Que ce soit, on retrouve la Bible, mais aussi les mythologies grecques, les mythologies égyptiennes. Il y a énormément d'histoires intemporelles.
Oui, il y a plein de choses comme ça. Et puis je crois qu'il y a aussi toutes celles qu'on met sans s'en être rendu compte. Et que les lecteurs du livre, après, détectent alors qu'on n'avait pas conscience de les avoir écrites. Donc, il y a plus de légendes, il y a plus d'allégories que je ne pensais en avoir fait. Et ça, c'est quelque chose de très plaisant, parce que c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup lire quand je suis lectrice. Hein, des romans un peu initiatiques, un peu avec plein de signes d'interpellation aux racines, aux croyances, à plein de choses comme ça. Et c'était vraiment un plaisir d'arriver à les mettre en scène dans un seul livre, même si je pense qu'ils m'ont débordé effectivement, et qu'il y en a beaucoup, beaucoup.
Mais dans ces steppes et dans ce pays sauvage, c'est tout à fait naturel. Et il ne reste de toute façon que la poussière. On est arrivé au terme de notre première partie d'émission. Je vous remercie beaucoup, Sandrine Colette. Je rappelle le titre du livre. Il reste la poussière. Collection sueur froide chez De Noël. Merci, Sandrine Colette. À bientôt.
Merci,
au revoir.
Au revoir.